بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فcette nuit, la nuit du 25 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 11e assise de notre série d'assises sur l'explication ou le commentaire de la traduction du livre Les Lumières du tout miséricordieux sur la voie tidjane de l'allama al-muhaddith Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrivés la semaine passée, j'avais évoqué la semaine passée que c'était donc le 11e cours, la 11e assise, ou la semaine passée ou la semaine d'avant dans le cours précédent, que nous étions à la 11e assise, et c'était une erreur de ma part, c'était la 10e assise. Il me semble que même dans l'assise précédente, je m'étais trompé sur le numéro des assises. Ceci est important pour ceux qui suivent les cours, de bien savoir qu'il n'y a pas eu un cours qui a été donné entre deux cours qui ont été numérotés, par exemple le 9 et le 10, ou le 10 et le 11, etc. Donc, le cours d'aujourd'hui est le 11e cours, et le dernier cours était donc le 10e, celui d'il y a deux semaines. Nous avions entamé la dernière partie du cours, la dernière partie du livre, qui traite des reproches faits par les partisans de la sunna, le sunnati wal jama'a, au tidjan et autres parmi les voix soufis. J'avais lu la traduction approximative du sens des paroles, la traduction approximative des paroles de Al-Sheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, rahimahullah, en introduction à cette partie, puis nous avions vu la première croyance, le premier égarement des Tidjan qui a été rapporté par Cheikh Abdurrahman, rahimahullah, après sa longue introduction, comme je l'ai cité à deux entreprises, qui est une introduction très profitable pour comprendre les réfutations, sa réfutation en particulier, les réfutations de manière générale et la méthodologie empruntée par les gens de science lors des réfutations. Ici, nous entamons aujourd'hui la deuxième croyance, le deuxième égarement qui est reproché au Tidjan. Il dit, rahimahullah, la deuxième croyance. Il dit dans Jawahir al-Ma'ani, vous vous rappelez Jawahir al-Ma'ani, qui est, comme je l'ai évoqué la semaine passée, dont le titre de la traduction française, puisque ce livre est effectivement traduit en français, ce qui nous montre aussi l'importance de parler de cette voie déviante, la voie Tidjan, et de les réfuter, ceci dans des cours en langue française, de même que de traduire des livres traitant des réfutations, ici en l'occurrence réfutation à la voie Tidjan, comme des livres précédents, si vous vous rappelez, que nous avons étudié ensemble, que nous avons pu traduire, Wallillahi alhamd, sur la réfutation de la secte des frères musulmans, la réfutation des chrétiens, le livre de Cheikh Mohamed Taqiddin al-Hilali, l'épreuve de l'évangile, et autre que cela, parmi les livres que nous étudierons et que nous traduirons dans le futur, Incha'Allah ta'ala. Donc nous voyons ici l'importance de ces réfutations, de la traduction de ces livres, de l'impression de ces livres, de la propagation de ces livres chez le public musulman francophone, afin de mettre en garde contre ces groupes déviants et de montrer et de réfuter à certaines personnes, de montrer à certaines personnes et de réfuter ces égarements pour certaines personnes qui, eux, seraient tombées dans ces égarements ou qui auraient, comme je l'ai dit précédemment à deux entreprises, suivi ces égarements de manière bien souvent, entre guillemets, culturelle que cultuelle. C'est-à-dire que beaucoup de personnes trouvent de la sympathie envers les Tidjan, s'apparentent même à la voie Tidjan, n'acceptent pas et refusent catégoriquement que l'on parle sur les Tidjan, et ceci car ils ont grandi dans une famille Tidjani, dans une famille qui vient d'un pays qui ou dans lequel est répandue cette voie, comme je l'ai dit, en particulier ces pays comme le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et autres, où cette voie tidjane est fortement répandue. Donc bien souvent, nous voyons certaines personnes qui refusent catégoriquement d'entendre des critiques sur la voie tidjane, ceci car ils ont de la sympathie envers eux du fait qu'ils ont grandi dans une famille qui s'apparentait à la voie tidjane, alors qu'eux-mêmes n'ont rien à voir de base avec cette voie tidjane, ne connaissent même pas les fondements de cette voie tidjane. Et certaines personnes, bien sûr, connaissent certains de ces fondements et les ont acceptés, peut-être parce qu'ils n'ont rien entendu d'autre, car ils vivent dans une famille ou dans une société, c'est-à-dire dans leur village, dans leur ville ou autre, qui est pour la grande majorité sur cette voie. Donc il est très important de répondre à ces réfutations afin que la vérité parvienne à tout le monde. Car ceci est une vérité. Dans certains endroits, dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans, comme dans certains pays d'Occident, où la réalité est que l'islam authentique ne leur est pas parvenu, lorsque je dis ne leur est pas parvenu, ne leur a pas été expliqué d'une manière à ce qu'ils comprennent cette explication. C'est-à-dire que si on dit qu'il ne leur est pas parvenu alors que de nos jours, les moyens de communication sont très développés. Nous avons Internet qui est rentré dans beaucoup de maisons. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a aussi certains endroits où, bien sûr, comme dans des villages éloignés, etc., où même Internet n'est pas rentré dans ces maisons-là. Mais on va dire que pour la plupart de ces pays, de ces contrées, Internet est rentré dans les maisons, etc., etc. Mais il ne suffit pas, par exemple, de tendre un livre ou d'envoyer une vidéo ou une parole des savants de la sunna, une parole de vérité, à des gens qui ont grandi et qui sont imprégnés depuis leur plus jeune âge de ces croyances déviantes, pour juger que ces personnes-là ont entendu la vérité. Et à partir de là, ce sont des gens qui refusent la vérité, comme on peut l'entendre de certaines personnes. Non, ceci n'est pas exact. Ceci n'est pas exact. Il faut faire comprendre à ces gens-là cette vérité, leur expliquer, leur exposer cette vérité. Et nous ne tombons pas non plus dans l'exagération de se dire qu'une personne à qui tu as expliqué la vérité et qui ne l'a pas acceptée, cette personne-là, elle ne l'a pas acceptée parce qu'elle a mal été expliquée, etc., etc. Non, il se peut qu'elle ait mal été expliquée, il se peut qu'elle ait été bien expliquée, mais cette personne-là n'accepte pas réellement la vérité. Cette personne-là fait partie des gens de l'innovation et du faux et des gens de l'égarement. Ceci est possible aussi, donc il ne faut pas tomber dans l'exagération à ce niveau-là. Mais cette parole que je tenais à avancer entre les mains de ce cours, c'est-à-dire lors de l'introduction du cours d'aujourd'hui, est pour montrer l'importance de ces réfutations et de ne pas se dire que la vérité est arrivée dans l'ensemble des foyers. La vérité est claire, sans aucun doute, mais il se peut que cette vérité, qui est claire, ait été assombrie par les paroles des gens du faux, les prêcheurs du faux, et dans certaines maisons, dans certains foyers, dans certaines contrées, dans certains villages, dans certaines villes, ces paroles de vérité ne sont pas parvenues ou n'ont pas été expliquées et éclaircies comme il le faudrait pour que les gens de ces endroits acceptent cette vérité. Donc, nous voyons ici l'importance, barakallahu fikum, de ces réfutations, d'en parler, de faire des cours sur les réfutations des égarements, de traduire des livres de réfutation, de les répandre, de les distribuer. Et sans aucun doute, ceci est une œuvre par laquelle nous nous rapprochons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qui est à noter, c'est que bien souvent, ces réfutations, ces livres de réfutation, etc., ne sont pas très bien accueillis par le grand public. Ceci parce que, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ces réfutations, de connaître l'importance de la réfutation en islam. Et nous voyons que nos frères, jazahumullahu khayra, qui prennent sur eux d'imprimer et d'éditer ces livres de réfutation, ont, inshallah azza wa jal, leur récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car dans cette œuvre-là, sans aucun doute, du fait que ces réfutations ne sont pas très bien reçues du grand public, comme nous en a fait part certains de nos frères, jazahumullahu khayra, qui éditent et qui sont courageux d'éditer ces livres de réfutation, qu'ils ont rencontré maintes et maintes critiques de la part d'autres personnes travaillant dans le milieu de l'édition, de la vente de livres et autres que cela, car ceci est une chose qui ne se vend pas. Mais ce que nous recherchons par cela, ce n'est pas des biens de cette vie d'ici-bas, mais plutôt le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala contre ceux qui la dénaturent ou qui cherchent à la dénaturer, ceux qui cherchent à pervertir les esprits. Barakallahu fikum. Je me rappelle ici une parole de ce grand savant, Cheikh Mohammed Taqidin al-Hilali, rahmatullahi alayh. Ceci pour appuyer aussi le fait que, bien que la vérité est claire, sans aucun doute, mais que dans certains endroits, à certaines périodes, à certains moments, et dans certains endroits, certaines villes, certaines contrées, eh bien, cette vérité peut être ombragée par le faux et les gens du faux. Une parole de Cheikh Mohammed Taqidin al-Hilali, rahmatullahi alayhi, qui était un grand prêcheur à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans de nombreux pays, en particulier dans son pays, le Maroc, harasahullah, nous voyons que ce dernier disait, comme dans son livre « Al-Da'watu ilallah », il rappelait que pendant une période où il se trouvait au Maroc, lorsqu'il était dans le nord du Maroc, dans la ville de Tanger et de Tétouane et de ses environs, eh bien, certains parmi les gens de science l'avaient aidé en lui envoyant des livres. Donc il explique qu'il avait fait éditer des livres de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, parmi ses livres Kashf al-Shubuhat. Et ce dernier, rahimahullah, avait changé le nom de l'auteur pour qu'il soit accepté. C'est-à-dire qu'il avait changé son nom. Il s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi al-Najdi al-Dar'i. Et il avait donc écrit sur le livre « Mohammed ibn Sulayman », donc il avait donné le nom de son grand-père, chose qui est acceptable, qui est véridique, « Mohammed ibn Sulayman al-Dar'i ». Et il y a une ville au Maroc qui s'appelle Dar'a, qui, la personne qui vient de cette contrée Dar'a s'appelle al-Dar'i. Donc une chose qui est plus acceptable des gens de la masse lorsqu'ils lisent l'auteur, Kashf al-Shubuhat, d'accord, de quel auteur? Mohammed ibn Sulayman al-Dar'i, d'accord. Nous allons lire donc ce livre-là, au lieu de Mohammed ibn Sulayman, Mohammed ibn Abdel Wahhab, et tout ce que les gens du faux ont apporté comme ambiguïté autour de Cheikh al-Islam, cet imam qui est mort en 1206 de l'Égypte, rahimahullahu ta'ala, qui a combattu le shirk, le polythéisme, de même que les innovations religieuses, et ceci est clair pour toute personne qui a des yeux, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Ici donc, Eshir avait trouvé cette méthode, et lorsque il en fit part à Eshir Mohammed ibn Ibrahim al-Eshir, rahimahullahu ta'ala, ce dernier fut content de cette ruse, de cette bonne ruse qu'il utilisa pour répandre les livres de Cheikh al-Islam. Après cela, il raconte, rahimahullah, que certains parmi les al-Mashayr, dont Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, et d'autres parmi des savants de al-Mamlak al-Arabiya al-Saoudiya, harasahallah, avaient décidé de lui envoyer des copies du livre Fath al-Majid, Fath al-Majid, donc, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab. Ils avaient envoyé au départ plus de 300 éditions, et après ils avaient promis d'envoyer plus d'un millier d'éditions, etc. Al-Muhim, il expliqua que 300 éditions ont été envoyées, et Cheikh décida de les mettre en vente, et il avait demandé conseil auprès des savants, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim al-Cheikh, de même que Cheikh ibn Baz, rahmatullah alayhi, à cette époque. Il avait demandé conseil aux savants à propos de cela, car il voyait que un livre qui n'est pas acheté n'est pas lu. Un livre qui n'est pas acheté n'est pas lu, ceci est une parole qui est connue. Et il voyait qu'il fallait absolument le mettre en vente, mais à un prix très bas, et l'argent qu'il allait récolter allait le servir à rééditer le livre, ce qu'il a fait effectivement. Rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, il décida de le mettre en vente à un prix très bas. Je crois qu'il le vendait à 6 dirhams à l'époque. Donc je ne sais pas combien ça fait, proportionnellement à aujourd'hui, mais c'était un prix assez dérisoire à l'époque, donc. Et donc pour le livre. Et donc il évoqua que le livre s'est vendu dans plusieurs contrées où il y avait des prêcheurs, écoutez bien, où il y avait des prêcheurs au tawhid, où il y avait des gens qui appelaient au tawhid. Le livre s'est très bien vendu et très rapidement. Et dans certaines contrées, il évoqua une ville où il est connu que les gens du shirk et de, ou les gens de l'innovation étaient nombreux, et où il n'y avait pas à sa connaissance de prêcheurs à At-Tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit qu'en un an, il avait envoyé lui-même 6 exemplaires dans cette ville, et en un an, il n'y avait eu que 2 ou 3 exemplaires qui s'étaient vendus. Alors que dans les autres contrées où il y avait des prêcheurs au Tawhid, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemplaires s'étaient vendus en très peu de temps. Tout ça pour dire que ceci est effectif, il y a des endroits où parfois la vérité, malgré sa clarté, est ombragée par la voix des gens du faux. Il nous convient donc d'appeler à cette voix et ne pas désespérer d'y appeler sans cesse. Et ceci par de nombreux moyens. Si une personne n'a pas la science pour appeler, pour prêcher, pour donner des cours, et bien à partir de là, elle a beaucoup d'autres moyens. Elle peut répandre les cours de ceux qui sont les prêcheurs au Tawhid et à la Sunna. Elle peut aussi répandre les livres, elle peut imprimer les livres, elle peut distribuer les livres. Elle peut, par de nombreux moyens, avoir une part dans la récompense de cette prêche, de cette prédication à At-Tawhid. Barakallahu fikum. Il dit donc, dans la deuxième croyance, le deuxième égarement, donc dans Jawahir al-Ma'ani, donc pourquoi donc cette... excusez-moi, je me suis un petit peu étalé ici. Il dit donc dans Jawahir al-Ma'ani, qui a pour traduction française les perles des indications et compréhensions recueillies auprès du Cheikh Sidi Ahmed al-Tijani, écrit par Ali Harazim ibn al-Arabi Barada, comme je l'avais évoqué la semaine passée, et donc comme je l'ai dit. Si ce livre est traduit en français, c'est un livre de référence, c'est le plus grand livre de référence de la secte Tijani, eh bien cela montre que le public francophone a besoin, sans aucun doute, de ses réfutations sur la voie Tijani. Barakallahu fikoum. C'est ce que je voulais vous mettre en avant ici, dans l'introduction du cours d'aujourd'hui. Le fait que s'il y a des livres de cette voie qui est traduit en français, de même que des livres des Ikhwan qui sont traduits en français, s'il y a des livres de Ar-Rawafid qui sont traduits en français, des Shia qui sont traduits en français, et autres parmi les sectes de l'islam, ou des sectes qui s'apparentent à l'islam mais qui n'en font pas partie, eh bien cela montre l'importance de faire des réfutations à ces groupes et sectes. Barakallahu fikoum. Il dit dans Jawahir al-Ma'ani, donc Ali Harazim, donc il rapporte les paroles de Ahmed Tijani, il dit: assurément, prononcer une seule fois Salat al-Fatih équivaut à toute glorification faite dans l'univers. Écoutez bien, Salat al-Fatih, qui est le wird, un des wird, un de l'awrad par lequel la secte des Tijani est connue, et c'est celui qui est le plus connu, le plus important dans la secte des Tijani. Et on va en évoquer d'autres dans nos cours à venir. Mais ici, c'est le wird le plus connu de la secte des Tijani, Salatul Fatih. Salat al-Fatih. Faites bien attention si vous entendez cette dénomination, Salat al-Fatih, ce wird, ce dhikr, comme ils peuvent l'appeler parfois. Donc ils ont l'habitude de dire wird, qui est une manière d'appeler le dhikr chez As-Soufia, comme vous le savez, comme je l'ai déjà évoqué. Si vous entendez cette dénomination chez quelqu'un, faites attention. Dont le début est Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih lima ughliq. C'est pour cela qu'elle s'appelle Salat al-Fatih. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq. Donc, il dit, assurément prononcer une seule fois Salat al-Fatih. Donc, Salat al-Fatih, qui est ce dhikr, Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq, il a akhir ad-du'a, qui est un du'a qui est un dhikr qui n'est pas, ou un du'a, un dhikr qui n'est pas très long. Il dit, elle équivaut. Prononcer une seule fois Salat al-Fatih équivaut à toute glorification faite dans l'univers et toute invocation, donc évocation dhikr et invocation du'a, grande ou petite, de même elle équivaut à 6000 fois la récitation du Coran. Salat al-Fatih, l'évoquer une seule fois, équivaut pour eux à toute du'a. Toute évocation grande ou petite, et elle équivaut à 6000 fois la récitation du noble Coran, le livre d'Allah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il dit ceci dans la page 96, dans la première édition de aux éditions At-Taqaddum, en arabe bien sûr. Cheikh Mohammed, Cheikh Abdurrahman, pardon, Al-Ifriqi, rahimahullah, dit « C'est là une mécréance ». Une apostasie et une sortie de la religion de l'islam. Encore une fois, entre guillemets, les gens de la sunna, à l'inverse de At-Takfiriyo, de l'Khawarij et autres, ne jugent pas de la mécréance d'une personne précise sans avoir réuni les conditions et que les empêchements soient levés par rapport à cette personne. Ici, cette parole ne veut pas dire que toute personne qui dirait cela sans condition serait un mécréant. Ici, on dit, on donne un jugement, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi donne un jugement sur cette parole et sur une personne qui prononcerait cette parole sans donner un jugement sur une personne précise, car cette personne-là, même si elle prononce une parole de mécréance ou elle fait un acte de mécréance, eh bien, ce qui est connu chez les gens de la sunna, c'est qu'il faut attendre de voir, et ce n'est pas n'importe qui jugera de sa mécréance, il faut attendre de voir si cette personne a réuni les conditions pour qu'on puisse juger de sa mécréance et que tous les empêchements soient levés. Et ceci est très important, et ceci est une chose qui différencie les gens de la sunna as-salafiyin de al-khawarij wa-takfiriyin. Il dit donc, c'est là une mécréance, une apostasie et une sortie de la religion de l'islam. Reste-t-il dans le monde un musulman qui ne juge pas mécréant l'auteur d'une telle parole ? Shir s'exclame, et subhanallah al-adim, certaines personnes, et parmi eux tous ceux qui s'apparentent à cette voie, la voie des Tijan, et qui s'y apparentent et qui connaissent un minimum de cette voie et connaissent Salat al-Fatih, connaissent cette parole que l'arrestation de Salat al-Fatih une seule fois équivaut à 6000 fois l'arrestation du Coran. Allahu Akbar. Et ils ne réprouvent pas cette parole-là. C'est là une mécréance, une apostasie, une sortie de la religion de l'islam. Reste-t-il dans le monde un musulman qui ne juge pas mécréant l'auteur d'une telle parole? Voir celui qui ne le réprimande pas et est satisfait de lui, alors c'est un mécréant. On lui réclame de se repentir sous peine d'être exécuté. Bien sûr, encore une fois, entre guillemets, cette peine qui est évoquée par ici Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, cette peine ne peut bien sûr pas être appliquée par n'importe quelle personne, mais plutôt par le détenteur du pouvoir. Et ce n'est en aucun cas quelque chose que tout individu pourrait appliquer par lui-même. Donc ceci est très important, ceci différencie aussi les gens de la sunna de Al-Khawarij. Il dit ensuite, Allah ne vous a-t-il pas donné des raisons avec lesquelles vous raisonnez? Ne réfléchissez-vous donc pas? Quelle chose pourrait être meilleure que le Coran? Quelle parole pourrait être meilleure que le Coran? Et Allah va-t-il faire descendre quelque chose sur un homme après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? À plus forte raison qu'il soit meilleur que le Coran? Ceci est vraiment une chose étonnante. Comme vous l'avez entendu précédemment dans les cours précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui, comme il l'a dit lui-même. Et comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Est-ce que Allah azza wa jalla va envoyer quelqu'un après lui sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous prétendez cela? À plus forte raison, est-ce qu'il va faire descendre une parole sur quelqu'un après lui, donc une révélation sur quelqu'un après lui, donc cette personne deviendrait prophète ou messager? Bien sûr que non. À plus forte raison, est-ce que cette parole serait meilleure que le Coran? Bien sûr que non. Ceci est vraiment une chose étonnante. Et je pense que l'auteur de cette parole, écoutez la parole de Cheikh Abdelrahman al-Ifriqi ici, rahmatullah alayhi, il dit, et je pense que l'auteur de cette parole n'a pas connu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas connu ce avec quoi est venu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas su pourquoi a été envoyé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui dit ce genre de parole, que Salat al-Fatiha est meilleure que 6000 fois la récitation du Coran, n'a pas connu le message avec quoi est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui est ignorant de l'islam, du message de l'islam. Il dit ensuite, rahimahullah, je te donne en rançon ma mère et mon père au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu as certes remis le dépôt. Nous attestons tous de cela. Tu as certes remis le dépôt, transmis le message et combattu en Allah jusqu'à ta mort. Qu'Allah te récompense de la meilleure manière avec laquelle il récompense un prophète pour sa communauté. J'atteste que tu es le sceau des prophètes et ta législation abroge toute législation tandis qu'elle n'est pas abrogée. Jusqu'au jour de la résurrection, jamais personne n'est venu après toi avec une chose semblable et celle... avec une chose semblable à celle avec laquelle tu es venu, j'atteste que celui qui prétend que se trouve une révélation qui descend ou que celui-ci, lui, est révélé à lui-même, a certes proféré un immense mensonge sur Allah, tabaraka wa ta'ala, puis il évoqua, rahimallah, la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens de ses paroles, certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. N'exaltez-vous donc pas le livre de votre Seigneur ? Ô vous les gens, délaissez cette voie de mécréance. Donc, Shir s'exclame et appelle les gens de la voie Tidjane en leur disant « Délaissez cette voie de mécréance qui est prétendument meilleure que le Coran, d'après celui qui le dit. Nous recherchons la protection d'Allah contre tout diable rebelle, ordonnant une chose telle que celle-ci. » Adorez-vous Allah avec une chose meilleure que le Coran ? À ce moment, Allah vous aura certes préféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, quelque chose qui est très important, nous l'avons évoqué à de maintes reprises. Celui qui prétend cela, il prétend qu'il est mieux guidé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que ses compagnons. Celui qui prétend qu'il adore Allah azza wa jalla avec une chose qui est meilleure que ce avec quoi l'a adoré son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il prétend qu'il est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il prétend qu'il l'adore avec une chose qui est meilleure, qu'il se rapproche d'Allah avec une chose qui est meilleure que toute chose avec laquelle s'est rapproché notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aura certes proféré donc, il dit, rahimallah, adorez-vous donc Allah avec une chose meilleure que le Coran. À ce moment-là, Allah vous aura certes préféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons radiyallahu anhum, car eux ne l'ont pas adoré avec une chose meilleure que le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consacrait certes une partie de sa nuit à la récitation du Coran, de même que ses compagnons radiyallahu anhum. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, la meilleure chose que j'ai dite moi et les prophètes avant moi est il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, la ilaha illallah. La meilleure chose que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, est « La ilaha illallah ». Le meilleur des rappels, la meilleure des évocations, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Afdalu dhikr, la ilaha illallah ». Le meilleur des dhikr, le meilleur des évocations est « La ilaha illallah ». Et la meilleure des paroles, sans aucun doute, est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran. Il dit ensuite, il a authentiquement été rapporté qu'il a dit « La supériorité de la parole d'Allah sur la parole des créatures équivaut à la supériorité d'Allah sur ses créatures » rapporté par At-Tirmidhi et autres. Ce hadith a été évoqué par le shir ici, rahimahullah, et il est jugé faible par shir Nasr, shir al-Albani, rahimahullah, dans son livre « Da'if At-Tirmidhi ». Mais il n'en reste pas moins vrai que la parole d'Allah azzawajal reste la meilleure des paroles. Elle est au-dessus de n'importe quelle autre parole, tabaraka wa ta'ala. Cela ne barre-t-il pas le chemin, il dit ensuite, rahimallah, cela ne barre-t-il pas le chemin vers le Coran, aux ignorants et aux gens de la masse ? Est-ce que par ces paroles où vous nous dites que Salat al-Fatiha est meilleur que 6000 fois le Coran, vous ne barrez pas plutôt la route aux gens vers le Coran ? En fait, ceci est la voie des gens de l'innovation. Regardez, si une personne, tu l'orientes vers la meilleure des paroles, il cherchera à la lire, à la méditer, à l'apprendre par cœur, et il y a toute la guidée dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, cette personne fera partie des gens qui méditent sur la meilleure des paroles et sur la parole de guidée. Mais si tu dis à ces personnes-là, tu les appelles
à revenir vers une parole qui sera meilleure que celle-ci, eh bien, à ce moment-là, tu auras barré la route aux gens vers la guidée. Tu auras barré la route aux gens, cette route qui mène vers la guidée. Et tu les auras appelés à ta voix, à ta parole, à toi. Comme l'a fait ici Ahmed Tijani avec cette parole. Il dit, cela ne barre-t-il pas le chemin vers le Coran aux ignorants et aux gens de la masse? Et existe-t-il quelqu'un qui continue à s'accrocher à cette voie après avoir entendu qu'elle est meilleure que le Coran? Si ce n'est un ignorant du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-il possible que s'installe dans une raison saine, est-il possible que s'installe l'idée que réciter une fois, une seule fois Salat al-Fatih est meilleure qu'une formule d'évocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Juste ceci. Est-ce que une personne qui a connu le message de l'islam, la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la place du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, pourra penser que réciter une seule fois Salat al-Fatih est meilleur que de réciter ne serait-ce que une seule parole, un seul dhikr rapporté authentiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'en est-il alors d'une personne qui prétendra que ceci est meilleur que n'importe quelle parole rapportée, que toutes les paroles rapportées, que toutes les évocations évoquées par le rapporté authentiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Salat al-Fatih est meilleur que l'ensemble d'entre elles, est meilleur même que la parole d'Allah azza wa jal? Allahu Akbar. Il dit donc, est-il possible que s'installe dans une raison saine l'idée que réciter une seule fois Salat al-Fatih est meilleur qu'une formule d'évocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'être meilleur que toutes les autres formules d'évocation prononcées dans l'univers? Ne réfléchissent-ils donc pas? Par Allah, cette voix a rassemblé tout ignare sot loin de la religion. Ceci est la parole de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi. Ô vous les gens, Adam, Nuh, Moussa, Isa et Muhammad, que les prières et le salut d'Allah soient sur eux tous. Salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. N'invoquaient-ils pas Allah? Est-ce que tous ces prophètes d'Allah azzawajal n'invoquaient-ils pas leur Seigneur? L'initiateur de cette secte est-il meilleur que l'ensemble de ses prophètes? Non, et loin s'en faut. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous reviendrons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une parole telle que celle-ci est une musiba. C'est pour cela que Ash-Shir termine en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons, c'est vers lui que nous reviendrons. Cette parole donc, Salatul Fatih, sur laquelle ils construisent des histoires et ils l'enseignent aux jeunes comme aux moins jeunes en leur disant que ceci est la meilleure parole qu'ils puissent prononcer. Et bien sûr, ils ont d'autres awrad, d'autres adhkar qu'ils prétendent être meilleurs que les adhkar qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces adhkar, je les évoquerai dans les cours prochains. Incha'Allahu ta'ala wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.